France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le président allemand doit tirer les conséquences de l'échec des négociations sur la composition d'une coalition. Franz-Walter Steinmeier fera dans une heure maintenant une déclaration à la presse, correspondance de Cyril Sauvageau dans un instant. La France n'a pas intérêt à ce que la situation se crispe en Allemagne, déclare ce matin Emmanuel Macron. L'échec de la chancelière pourrait fragiliser le projet de réforme de l'Union européenne qui est actuellement porté par Paris. L'ouverture du 100e congrès des maires de France, les élus locaux attendent une clarification du gouvernement et notamment sur la suppression progressive de la taxe d'habitation, qui est une source importante de recettes pour les collectivités. Analyse politique de Stéphane Robert. On parlera du plan climat ce matin au Conseil de Paris avec l'objectif d'atteindre 100% d'énergie renouvelable dans la capitale d'ici 2050. Précision de Véronique Reberotte. Et puis on reviendra aussi sur la mort en prison à 83 ans de Charles Manson, gourou psychopathe à l'origine de meurtres comme celui de l'actrice Sharon Tate. Évocation d'Antoine Marette, l'invité de la séquence interview, Louis Schweitzer, président de l'association Initiative France. Dans la dernière partie de la grande table, Olivier Jesbert.
Après la fabrique de l'ennemi avec Wajdi Mouawad, on va aborder la question des figures du mal qui ne cessent de faire leur retour aujourd'hui encore dans la littérature, au cinéma, mais aussi à la télévision avec des documentaires consacrés au nazisme. Pour en parler, nous recevrons l'historien Fabrice Dalméda qui a été conseiller sur un documentaire diffusé demain autour de la personne de Magda Goebbels, et la journaliste écrivaine Géraldine Schwartz pour son livre « Les amnésiques » qui vient de paraître chez Flammarion.
La France n'a pas intérêt à ce que la situation se crispe en Allemagne, constat fait ce matin par Emmanuel Macron, après donc l'échec des négociations sur la composition d'une coalition, échec qui plonge effectivement le pays dans une période de turbulence qui risque aussi de fragiliser ce projet de réforme de l'Union européenne qui est porté actuellement par Paris. Après plus d'un mois de tractations, les libéraux ont donc claqué la porte la nuit dernière. Il est préférable de ne pas gouverner que de mal gouverner, affirmait ainsi le président du FDP, Christian Lindner. Cyril Sauvageau, est-ce que nous allons vers de nouvelles élections l'an prochain? Madame Merkel doit rencontrer le président allemand, lequel doit faire donc une déclaration dans l'heure qui vient.
Dans cette crise politique où vient de plonger l'Allemagne, la prise de parole du président fédéral est très attendue. Frank-Walter Steinmeier devrait lancer cet après-midi un appel à la responsabilité des partis politiques pour éviter de nouvelles élections. C'est malgré tout le scénario le plus vraisemblable, un retour aux urnes début 2018. Il faudra pour cela dissoudre au préalable le Bundestag. Pour l'heure, deux autres options restent sur la table. La première, ce serait un gouvernement minoritaire, une expérience jamais tentée jusqu'ici. De majorité au Parlement, Angela Merkel devrait négocier chaque vote au cas par cas avec un grand risque d'instabilité politique. L'autre option, elle n'est pas à exclure totalement, ce serait une nouvelle grande coalition réunissant conservateurs et sociaux-démocrates. Le parti de Martin Schulz, grand perdant des législatives, a toujours refusé pour l'instant de participer à une nouvelle majorité, mais la pression est très forte pour que les sociaux-démocrates prennent leurs responsabilités et acceptent à minima d'ouvrir la porte à des discussions. L'état-major du SPD a convoqué ce matin une réunion interne pour en parler. Martin Schulz s'adressera à la presse cet après-midi.
On salue l'invité de la dernière partie de la grande table, Géraldine Schwartz. Bonjour.
Bonjour.
C'est une correspondante de l'AFP en Allemagne, à Berlin. Vers quoi s'achemine-t-on? Retour de cette grande coalition SPD-CDU? Ça vous paraît la plus hypothèse probable aujourd'hui?
J'espère, parce que le pire scénario serait l'organisation de nouvelles élections, parce que les partis traditionnels entreraient très fragilisés dans une campagne, déjà qu'ils ont essuyé quelques échecs aux dernières élections, et cela profiterait à l'AFD, le parti proche de l'extrême droite, qui, aux dernières élections, est entré au Bundestag, ce qui est une première pour l'Allemagne. C'est un parti qui menace l'identité allemande, parce qu'il il représente une césure historique par rapport au travail de mémoire réalisé par l'Allemagne depuis l'après-guerre.
C'est pas marginal au sein de l'AFD, ce que vous dites là, comme positionnement?
Écoutez, c'est des cadres. L'AFD est un parti assez hétérogène. Une partie des cadres de l'AFD, surtout à l'Est, sont clairement proches de positions néo-nazies.
Dans votre livre, donc, Les amnésiques sur les Allemands et la mémoire du nazisme, vous notiez que l'extrême droite était jusqu'à présent contenue. Malgré tout, vous avez l'impression qu'à un moment donné, elle pourrait ne plus l'être contenue?
Alors bien sûr,
politiquement évidemment.
L'afflux d'un million de réfugiés en Allemagne depuis 2015 ont un peu tronqué le débat. Et c'est vrai que le résultat, si on regarde le résultat à l'ouest, qui tourne autour de 10%, reste assez contenu par rapport à ce contexte d'un afflux de réfugiés très important. Mais on risque à l'avenir, effectivement, si les partis traditionnels n'arrivent pas à rétablir une image positive, l'AFD risque de gagner des points.
Qu'est-ce que va dire le président ? Il faut vous rassembler, il faut trouver une solution ou il va annoncer les élections ?
Non, c'est pas du tout le style de Steinmeier de prendre des décisions précipitées. Donc il va, je pense, appeler au rassemblement et probablement aussi envoyer un message en direction de Lindner, le chef des libéraux, qui a pris l'initiative de quitter la table des négociations.
Géraldine Schwartz, merci beaucoup. Donc le président s'exprime maintenant dans un peu moins d'une heure. On vous retrouve évidemment pour la dernière partie de la Grande Table. Paradoxalement, c'est l'accueil de centaines de milliers de migrants en 2015, vous y faisiez allusion, qui avait donné à Angela Merkel sa stature historique. Mais c'est aussi par là que peut-être commence aussi son déclin. En tout cas, la politique française, elle, en matière d'accueil, était restée très en deçà de ce qui se passait en Allemagne. Aujourd'hui, une initiative intéressante, en tout cas nouvelle, le directeur général de l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'issue d'une mission à Niamey, annonce que la France va accueillir les premiers réfugiés qui sont évacués de Libye par le HCR au Niger. C'est un groupe de 25 personnes, érythréens, éthiopiens, soudanais, comprend 15 femmes et 4 enfants, des personnes qui sont donc repérées pour leurs besoins de protection, et celles qui seront retenues après une évaluation sécuritaire vont obtenir un statut de réfugiés très rapidement après leur arrivée en France. Des conditions donc d'accueil qui semblent être plutôt modèles, Marie-Pierre Véraud, mais ça concerne, on vient de le dire, 25 personnes, ce qui est tout de même relativement faible.
Bien sûr, si l'on pense aux près de 150 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année, ou aux près de 400 000 migrants bloqués en Libye, dont plusieurs milliers dans des centres de détention et dans des conditions épouvantables. Mais c'est la première concrétisation d'une approche française que l'on peut qualifier d'avant-garde en Afrique. L'objectif, c'est de réduire au maximum les traversées meurtrières de la Méditerranée, en établissant pour les réfugiés un corridor humanitaire, donc une voie légale d'accès. Et comme la France l'a fait dans les camps en Turquie, en Jordanie, au Liban, en Grèce, voire en Italie, il s'agit pour les agents de l'OFPRA d'auditionner sur place les personnes les plus vulnérables, éligibles à l'asile. Elles ont été identifiées par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, puis de les réinstaller dans l'Hexagone. C'est ce qui se passe donc désormais au Niger et au Tchad, non seulement pour ces rescapés de l'enfer libyen, mais aussi pour d'autres candidats d'Afrique subsaharienne, soudanais, érythréens, centrafricains, etc. L'idée, c'est donc à la fois d'ouvrir cette voie légale pour les candidats à l'asile, mais aussi, et ça c'est vraiment une nouveauté, de repérer les personnes qui ne sont pas forcément éligibles à l'asile, qui ne sont pas forcément en besoin de protection, mais qui sont animées d'une forte volonté de traverser et d'un vrai projet, et qui pourraient aussi bénéficier de ce dispositif. La France s'est engagée à accueillir quelques 3000 migrants dans ce dispositif avant la fin de l'année 2019. Là aussi, c'est une goutte d'eau, et pour que cela fonctionne, il faudrait que les autres pays développés lui emboîtent le pas, ce qui est loin d'être gagné si l'on pense par exemple à l'approche qu'a privilégiée jusqu'à présent l'Union européenne, négocier avec la Libye pour qu'elle retienne les migrants à n'importe quel prix.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. On attend pour le Liban cet après-midi un discours du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, sur la situation dans le pays, alors que le Premier ministre démissionnaire Saad Hariri est attendu, lui, après-demain, mercredi, dans son pays, au cœur des tensions, on le sait, entre les deux poids lourds de la région, l'Arabie Saoudite et l'Iran. On va peut-être profiter de votre invité, Olivier Gesbert, qui est en première partie de la Grande Taille, directeur du Théâtre de la Colline, pour nous dire peut-être si on peut éclairer l'opinion française sur cette rivalité, sur la manière dont le Liban est vraiment entre ces deux pinces de la tenaille proche-orientale.
Oui. J'ai expliqué rapidement, c'est vraiment un pays confessionnel qui vit avec 19 confessions différentes et dont les sunnites et les chiites sont un des partis des confessions les plus importantes. Il faut savoir qu'au Liban, le président de la République est toujours un chrétien maronite, le premier ministre est toujours un sunnite et le chef de la chambre est toujours un chiite. C'est une façon de partager et de prendre en charge la démographie du pays.
C'est la fragilité du système aussi. Et aujourd'hui, est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'Arrivée va pouvoir rester éventuellement?
Je pense que ça va être un peu compliqué, ça va être difficile parce que il y a une vraie tension qui est au-delà du Liban, qui dépasse de loin le petit pays qui est le Liban. Mais ce que je trouve le plus important, c'est la solidarité dont ont fait preuve là les Libanais, puisque je pense que l'Arabie Saoudite comptait sur la friction pour profiter de cette démission étrange. Mais il y a eu une telle solidarité de la part du peuple libanais. Je trouve que ça, c'est la plus belle nouvelle qu'il y a eu dans les deux dernières semaines.
Oui, solidarité entre toutes les confessions.
Entre toutes les confessions.
Wajdi Mouawad, mais c'est vrai que cette démission surprise du 4 novembre dernier a été suivie quand même d'une période de sidération dans le pays. Oui. D'effroi entre inquiétude et incompréhension. Oui. On a beaucoup parlé de ce regain de tension pouvant dériver assez fortement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que cette démission était un coup de théâtre qui va trouver ses solutions à travers des discussions? On a vu Saad Hariri ce week-end ici à Paris avec Emmanuel Macron. Il devrait se rendre demain en Égypte, rencontrer le président Al-Sissi avant de retourner à Beyrouth ce mercredi. Est-ce qu'une solution politique peut être trouvée ou est-ce que le risque n'est pas éloigné?
Je suis sûr qu'une solution politique va être trouvée parce que je pense qu'à la base, les Libanais ne supportent pas qu'on se soit mêlé de leurs affaires de cette manière si humiliante, vraiment. Et je pense qu'une solution politique va être trouvée, j'en suis convaincu.
Wajdi Mouawad, merci beaucoup d'être resté jusque dans ce journal pour répondre à nos questions donc sur le Liban. On passe à l'actualité française avec Emmanuel Macron qui va s'attacher cette semaine à apaiser les inquiétudes des maires de France qui vont ouvrir à Paris leur 100e congrès et qui attendent une clarification du gouvernement sur ses projets budgétaires. En particulier sur cette fameuse suppression progressive de la taxe d'habitation, qui est une source de recettes, on le sait, très importante pour les collectivités, mais aussi sur la baisse d'ailleurs des contrats aidés auxquels les municipalités ont également souvent recours. Il y a des sénateurs, les Républicains, qui entendent déposer un recours devant le Conseil constitutionnel contre la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français dans un premier temps. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Alors tout se passe un peu comme si ces élus locaux, toutes tendances confondues d'ailleurs, de gauche, de droite ou apolitiques, devenaient la principale force, un front d'opposition au pouvoir élyséen, à qui, pour l'instant, personne ne résiste.
Oui, en tout cas, une grande défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron s'est installée depuis cet été chez les élus locaux et plus particulièrement chez les maires. Une défiance qui, si on examine un peu les choses, s'exprime avant tout face à la manière dont le chef de l'État les a, disent-ils, pris à contre-pied. Pourquoi ? Parce que avant l'été, il leur avait promis une nouvelle approche dans les relations entre le pouvoir central et les collectivités territoriales. Il leur avait dit notamment que tout se ferait dans la transparence et la concertation. Or, au lendemain de la première conférence des territoires au mois de juillet, il a décidé de geler une enveloppe de 300 millions d'euros qui devait être versée. Il a aussi décidé assez brutalement, et là encore sans prévenir, de limiter le recours aux contrats aidés. Est donc apparue une manière de faire du président très verticale et autoritaire aux antipodes de la concertation prévue. Pour le dire autrement, Emmanuel Macron a complètement douché la bonne disposition des élus locaux à son égard et les espoirs qu'il avait suscités. Sur les mesures annoncées, en revanche, on est là plus sur des inquiétudes que sur de franches oppositions, parce que si vous prenez les 13 milliards d'euros d'économies réclamés par le président, il ne s'agit pas de réduire l'enveloppe budgétaire de 13 milliards, mais de faire 13 milliards d'économies sur la hausse prévisible des dépenses. Par ailleurs, les petites communes ne sont pas concernées, puisque l'effort sera demandé aux 320 plus grosses collectivités. Sur les emplois aidés, même chose, c'est surtout les emplois aidés dans le secteur marchand qui sont concernés. Pour la taxe d'habitation, en revanche, elle sera compensée à l'euro près, a promis le chef de l'État, et ça suscite beaucoup, beaucoup de suspicions. Par ailleurs, ce qui gêne les élus dans cette affaire-là, c'est qu'en supprimant un impôt spécifiquement dédié aux communes, l'État semble reprendre la main et retirer aux maires leur autonomie budgétaire. Vous voyez qu'il y a dans tout ça de la grogne et beaucoup, beaucoup de craintes que le président de la République, qui doit s'exprimer devant eux jeudi, aura sans doute du mal à apaiser.
Voilà, on en reparlera bien sûr. Merci Stéphane Robert. Il y a un Conseil national de l'industrie qui s'est tenu ce matin à Bobigny. Le Premier ministre Édouard Philippe déclare être prêt à baisser encore davantage le coût du travail en réduisant à nouveau donc les cotisations sociales, y compris d'ailleurs pour les salaires au-delà de 2,5 SMIC. Baisse, précise-t-il tout de même, qui ne pourra intervenir que quand les comptes publics auront été redressés, c'est-à-dire que ça laisse peut-être de la marge. Par ailleurs, le fonds de l'État pour l'innovation, qui doit être doté de 10 milliards d'euros, va être opérationnel. Ce sera le premier 1er janvier prochain. Jean-Marc Chardon, vous avez écouté pour nous le Premier ministre.
Oui, et l'on voit qu'il y a déjà ce sujet fort sensible de la politique fiscale. On attendait le chef du gouvernement sur la poursuite ou non de la politique d'allègement des cotisations sur le travail. Édouard Philippe répond oui, en envisageant une nouvelle baisse possible. Donc il parle au conditionnel, pas avant d'avoir rétabli les finances publiques. Pas question en tout cas de brûler les étapes, même si le chef du gouvernement affirme être tendu vers l'effort de rétablissement de la compétitivité industrielle. A priori, on resterait donc dans le cadre de ce qui avait été annoncé, la transformation du CICE, qui le crédit d'impôt serait ramené à une baisse directe des cotisations. Mais jusqu'à quel niveau, la question demeure. Et elle est importante. On est donc dans la continuité, semble-t-il, tout en transformant, on l'a compris, les outils de la politique industrielle. L'autre perspective abordée est celle d'un fonds pour l'innovation à la date du 1er janvier. 10 milliards à la clé, pour l'essentiel sous forme de titres d'entreprises publiques. Un fonds qui laisse présager un remodelage des précédentes initiatives avec la Nouvelle France industrielle, puis la reformulation sous forme de 5 piliers en 2015. Mais quel effet attendu? Comment tout cela va s'articuler? C'est en attente, comme on attend de voir comment l'État va ajuster sa politique industrielle, dossier après dossier.
Jean-Marc Chardon, merci beaucoup. On reparle de toutes ces questions industrielles avec notre invité dans un petit instant, Louis Schweitzer, qui est avec nous donc pour la séquence interview. On reste à Paris puisque le Conseil de Paris présentait ce matin aux élus son plan climat, air, énergie territoriale. Il a pour objectif d'atteindre 100% d'énergie renouvelable dans la capitale d'ici 2050. Alors il y a 500 mesures, c'est un plan très ambitieux, Véronique Rebeyrotte, et notamment la fin de l'accès à la capitale pour les véhicules à essence en 2030.
Oui, c'est une des mesures, mais en tout cas c'est un échelon important, la ville, parce qu'on a vu à la COP23 de Bonn, qui s'est terminée donc samedi dernier, à quel point la volonté politique faisait défaut pour traduire concrètement l'accord de Paris sur le climat. La difficulté de passer de discours extrêmement forts, alarmistes, à l'action. L'échelon local est donc un des piliers de cette action, au niveau des villes particulièrement. Alors le plan climat présenté aujourd'hui est une étape importante pour faire de Paris, et c'est l'objectif, donc une ville neutre en carbone et 100% d'énergie renouvelable en 2050. La ville est régulièrement asphyxiée, victime de pollution, on le sait, chronique, et de pics de pollution aussi de plus en plus sévères. Alors l'axe principal de l'action à Paris, pour lutter contre le réchauffement et la pollution, eh bien ce sont les mobilités, les déplacements en ville. C'est un gros morceau. Paris a déjà annoncé son objectif de sortir du diesel à l'horizon 2024 et d'empêcher l'accès à la capitale des véhicules essence en 2030. Il ne s'agit pas de bouter hors de Paris tous les véhicules, corrige l'adjointe verte à la mairie de Paris, Célia Bloel, mais bien et seulement les véhicules individuels les plus polluants. Autre mesure, la transformation déjà amorcée du boulevard périphérique en boulevard urbain avec pistes cyclables et création d'une voie réservée au covoiturage. En matière d'énergie, en fait, la mairie de Paris entend produire localement 20% d'énergie renouvelable en 2050. Elle le peut grâce notamment à des puits géothermiques et une centrale solaire aussi prévue dans le parc de Vincennes. 2050, 20% aussi des toits de Paris pourraient être équipés de panneaux solaires. Parallèlement, le plan climat de Paris prévoit de mettre le paquet, bien sûr, sur l'isolation thermique de tous les bâtiments. Puis il y a aussi un volet alimentation dans ce plan. Plus de bio en Île-de-France. Les surfaces agricoles converties à l'agriculture biologique représentent 30% à l'horizon 2050. C'est donc plus de bio dans l'assiette des Parisiens avec la promotion du régime flexitarien. Ça va vous plaire, Antoine, encouragé par la ville de Paris, à savoir plus de produits locaux bio et moins de viande. Viande, le régime flexitarien, autrement dit, le régime bobo en langage parisien.
Je
suis
végétarien, mais le flexi là-dedans, je ne vois pas trop.
Flexi, vous faites comme vous... C'est pas très rigide, c'est flexible.
Très bien, merci beaucoup. Véronique Rebeyrotte, en tout cas, Paris sans voiture, à essence en tout cas, ça a fait aussi réagir l'ancien PDG de Renault, qui est notre invité, Louis Schweitzer, qu'on retrouve dans un tout petit instant. Le temps d'évoquer une figure, si l'on peut dire, des États-Unis, puisque c'est la mort en... Charles Manson, qui est mort à 83 ans, c'est l'un des criminels les plus connus dans le pays, gourou, psychopathe, à l'origine de meurtres comme celui de l'actrice notamment Sharon Tate. Sa sauvagerie avait profondément choqué l'Amérique. Antoine Maret, sa vie en tout cas se confond pratiquement avec une partie en tout cas de l'histoire américaine contemporaine.
Effectivement, il y a d'abord la fin des années 60, période de libération des mœurs, de succès des Beatles, de la vague hippie et de la banalisation de la drogue. Charles Manson est un concentré diabolique de tout cela. Après avoir tenté de percer dans le rock, il crée une communauté sectaire dans le désert de Californie. Il se considère comme la réincarnation du Christ, mais choisit de jeunes filles en guise d'apôtres et en fait de véritables esclaves sexuelles. C'est dans cette ambiance faite d'orgies et de drogue que Charles Manson commandite à ses adeptes des meurtres dans les beaux quartiers de Los Angeles. L'idée, c'est d'accuser ensuite des Noirs pour provoquer un conflit racial. C'est à cette occasion que l'actrice Sharon Tate va être massacrée de 16 coups de couteau en août 69. La femme de Roman Polanski, enceinte de 8 mois, était âgée de 26 ans. Charles Manson est arrêté, jugé, condamné à mort, mais il bénéficie d'une parenthèse législative quand la Cour suprême abolit quelques années la peine de mort. Sa sentence est commuée en une peine de prison à vie. Depuis, l'homme qui arborait une croix gammée sur le front faisait régulièrement des demandes de libération anticipée, sans succès. Il en aura fait une dizaine en tout, à chaque fois rejeté. C'est par un bref communiqué des autorités pénitentiaires de Californie que l'on a appris sa mort de cause naturelle hier soir, à l'âge de 83 ans.
Antoine Maret, merci. Il est 12h50, largement le temps de retrouver l'invité de notre séquence interview, Louis Schweitzer. Bonjour.
Bonjour.
Président de l'association Initiative France. Et première question de Jean-Marc Chardon.
Voilà, Louis Schweitzer, vous allez nous dire effectivement comment vous en êtes venu là. Aujourd'hui, les chiffres de la création d'entreprises, ils sont importants. Celui des nouvelles entreprises justement créées l'an dernier, 554 000, ça représente une hausse de 6% en un an. C'est pas mal, on se dit qu'il y a donc une dynamique de création en France. Est-ce qu'il faut absolument l'accélérer aujourd'hui?
Bon, d'abord, il faut dire que la France est recordman d'Europe de la création d'entreprises et ça veut dire que nous sommes une nation d'entrepreneurs. Ce n'est pas l'image que nous donnons à l'extérieur. Alors, il ne s'agit pas tant d'accroître chaque année le nombre de créations d'entreprises, il s'agit de faire en sorte que ces entreprises réussissent. Et c'est là le rôle d'Initiative France, de faire en sorte que ces entreprises, non seulement se créent, mais vivent, se développent, croissent, en les finançant, en les accompagnant. Et c'est ce que nous essayons de faire.
Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le gouvernement, finalement, donne du vent dans cette idée, cet état d'esprit-là, pour l'initiative, pour les entreprises?
Le message est très favorable aux entreprises. Les petites entreprises que nous soutenons au départ sont moins concernées par les mesures générales qui ont été évoquées ce matin à la conférence de l'industrie. Mais le climat est favorable, l'ambition existe. Et ce qui est important, vous savez, créer une entreprise, c'est une aventure. C'est une aventure enthousiasmante. Mais quand on part dans une aventure mal préparée, eh bien, les chances qu'on échoue sont plus élevées.
Voilà. Et vous êtes là pour éviter, effectivement, les risques d'échec.
Ce que nous faisons, c'est que nous validons des projets, nous aidons à les construire, nous finançons par un prêt d'honneur, et puis nous accompagnons derrière. Et c'est ça qui est important.
Jean-Marc Chardon.
Alors, Louis Schweitzer, des programmes de simplification ont été entrepris, justement, en faveur des entreprises, y compris d'ailleurs au niveau de l'enregistrement de la création d'entreprises. Est-ce que vous en voyez, vous, les effets au quotidien? Est-ce que, justement, ça sert à quelque chose et c'est plus simple?
Je pense que si la France est championne d'Europe des créations d'entreprises, c'est en partie parce que la France est un pays où créer son entreprise est le plus facile et le plus simple, le plus rapide et le moins cher en Europe. Par exemple, c'est un domaine où on est bien meilleur que les Allemands.
Alors combien d'emplois finalement? Quand vous dites qu'il y a un vrai gisement, on ne se rend pas toujours compte. Alors entre les femmes entrepreneurs et les autres, et à partir de quel âge déconseillez-vous de lancer son entreprise?
Il n'y a pas d'âge où on ne puisse plus créer une entreprise et il n'y a pas d'âge où on ne peut pas commencer. C'est voilà. Comme Tintin de 7 à 77 ans.
Vous nous rassurez, c'est bien.
Mais je ne sais pas le chiffre global, mais je vais citer Initiative France. Nous créons chaque année 16 700 entreprises. C'est 44 000 emplois. 44 000 emplois tous les ans, nouveaux. Ça vaut la peine.
Et quels sont les domaines, finalement, qui vous semblent
tous
aujourd'hui?
Tous les domaines. Tous les domaines.
On parle quand même de la nouvelle économie, enfin, depuis longtemps déjà.
Initiative France, nous aidons toutes les entreprises. Le café du coin, l'épicerie du village, comme l'entreprise innovante. Par exemple, Blablacar. C'est Initiative France.
Louis Schweitzer, on dit aujourd'hui que les emplois, il n'y en aura plus autant qu'avant, avec les nouvelles mutations, notamment numériques. Quelle est votre position là-dessus?
Bon, les emplois, ils vont changer. Ils n'ont pas cessé de changer. Moi, je crois qu'il y aura plus d'emplois. Je pense aussi qu'il y aura sans doute plus de loisirs. Mais l'important, c'est que tous ceux qui veulent travailler puissent le faire et qu'il n'y ait pas du chômage. C'est ça le sujet.
Jean-Marc Chardon.
Voilà, et derrière tout cela, à vous entendre, il faut un réseau. Alors quand on dit il faut un réseau relationnel qui fonctionne, il fonctionne à partir de combien de personnes? Et qui sont ces personnes? Puisque c'est le propre de votre mission, l'Initiative France.
Dans la vie, on a toutes sortes de réseaux. Quand vous créez une entreprise, vous avez besoin de plusieurs réseaux. Vous avez d'abord besoin d'un réseau d'amis pour vous soutenir. Vous avez besoin de réseaux financiers. Vous avez besoin de la base d'un réseau client. Donc, vous avez besoin de réseaux de compétences. Et ce que nous faisons, avec notamment le parrainage, mais 16 000 bénévoles aussi, nous offrons à des créateurs d'entreprises dont 60% sont chômeurs. Donc des gens qui, a priori, n'ont pas tous les atouts au départ. Nous offrons tous les réseaux dont ils ont besoin. Par exemple, des réseaux d'autres créateurs d'entreprises qui vivent la même chose qu'eux.
Quels sont vos critères d'acceptation des dossiers, finalement?
Le critère d'acceptation, c'est que nous ayons le sentiment que l'entrepreneur a la capacité de gérer une entreprise, même s'il ne l'a jamais fait, et deuxièmement, que son projet soit viable et financé. Autrement, que le projet soit légal, ça va de soi.
Et ça, donc, ouvert à tout le monde, il faut
ouvert à tout le
monde.
Vous
envoyer
Initiative France, vous allez sur le net, vous le trouvez, il y a 220 plateformes en France, donc il y en a une près de chez vous.
Et soutenu par le gouvernement aussi officiellement?
Alors, c'est soutenu d'abord par les collectivités territoriales. Plus de la moitié des ressources d'Initiative France viennent des collectivités territoriales, parce qu'il faut le préciser, pour l'entrepreneur, tout est gratuit. Le prêt est sans intérêt, il est sans garantie, l'accompagnement est gratuit. Donc, pour l'entrepreneur, coût zéro.
Prêt d'honneur, vous avez dit tout à l'heure.
Un prêt d'honneur, ça veut dire que c'est un prêt à la personne, sans garantie, sans intérêt. Autrement dit, un prêt où on vous fait confiance. Et la bonne nouvelle, c'est que le taux de remboursement est supérieur à 95%. Autrement dit, la création d'entreprise, elle réussit dans 90% des cas, et l'honneur, c'est un vrai mot.
Et les valeurs, finalement, sont compatibles avec le business.
Absolument. Je crois même, à vrai
dire... Si on reconnaît le protestant que vous êtes, Louis Schweitzer.
Vous savez, je ne crois pas que les valeurs soient un monopole du protestantisme. Mais c'est vrai que si vous ne respectez pas les gens, enfin, vous ne serez pas un bon chef d'entreprise.
Merci beaucoup, Louis Schweitzer, président de l'association Initiative France, d'être venu dans ce studio. Un temps ensoleillé sur la moitié sud, plus nuageux au nord, des températures qui vont de 5 degrés dans l'est jusqu'à 20 degrés des Pyrénées-Atlantiques à la Méditerranée. Édition réalisée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal à 18h avec Aurélie Kiffer.